Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Décoscopie.
Décoscopie.
Le podcast du magazine Elle Décoration qui met des images plein les oreilles.
Bienvenue dans Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration. Dans cette nouvelle série, nous partons à la rencontre de personnalités éminentes de la déco pour découvrir les œuvres d'art, les événements, les personnalités et les lieux qui les font vibrer et les inspirent au quotidien. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laura González. On ne compte plus les projets prestigieux que cette décoratrice a réalisés. Des appartements, des boutiques comme celle de Christian Louboutin ou de Pierre Hermé, des restaurants et des hôtels, et notamment l'ambitieuse réfection du Saint-James à Paris. Gorgée de références aux arts décoratifs, son univers n'en reste pas moins très personnel. Une singularité qui s'explique par la curiosité que cultive cette décoratrice solaire. Et quand on lui a demandé de nous confier ses passions, Laura González a d'abord évoqué les Nabis, ces peintres mystiques de la fin du 19e, fascinés par Gauguin.
Décoscopie.
Les Nabis, ça vient d'une controverse, comme vous l'avez dit, à partir de Gauguin, où ils ont décidé de s'affranchir un peu des couleurs, de repartir sur des couleurs vives et de rentrer dans une logique plus décorative et symbolique. Donc c'est vrai que ça me touche énormément par rapport à mon travail au quotidien. J'avais été visiter cette exposition sur les Nabis qui était au Jardin du Luxembourg, il y a à peu près 4 ans, je pense. Et ça m'avait beaucoup inspirée pour faire à la fois parfois des tapis, des fresques. Et c'est vrai que moi, j'ai une passion pour la couleur et je pense que c'est un des courants, il y en a beaucoup d'autres, qui sont maîtres de maîtrise de couleur et d'art décoratif.
Une musique.
Profumo di un amore puro, puro come il tuo amore.
Lucio Battisti, c'est vraiment mon mari. Lucio Battisti n'est pas mon mari, mais c'est vraiment la genèse de notre relation. Donc pour moi, c'est vraiment la manière dont je suis tombée amoureuse de lui. Et ce qui fait que ça nous suit. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est mariés et ça nous suit dans notre relation, dans notre vie familiale, de nos enfants qui l'écoutent toute la journée. Donc pour moi, c'est vraiment une musique de joie, d'amour qui me détend immédiatement. Donc voilà, je le vois comme ça. C'est vraiment purement personnel. Et effectivement, on est très liés à l'Italie dans notre famille. Donc forcément, ça me lie aussi à tout ce courant-là, même si je suis espagnole. Mais oui, c'est plutôt une expérience personnelle de vie. Et c'est un peu ça la musique. La musique, pour moi, symbolise vraiment les instants de vie et des mauvais comme des très bons moments. Et c'est ça qu'on garde, le sentiment, la sensation. Wagner, pour moi, c'est mon éducation, c'est-à-dire que c'est mon côté battant, c'est mon côté travailleur, et je l'écoutais jeune, quand j'étais à la fac, quand je faisais mes examens ou quand je faisais mes projets, des charrettes, j'écoutais Wagner, ça me motivait, c'est une espèce de... ça me donne une rage, mais positive, c'est-à-dire que ça me donne une envie de foncer, d'y aller, et j'ai toujours écouté ça dans des moments un peu de fatigue ou d'un coup j'ai besoin d'avancer, ça me pousse à avancer, ça ne me pousse pas à faire la guerre, ça me pousse juste à me dépasser. Et par exemple, mon rêve, j'ai jamais fait, c'est d'aller à Beyrouth écouter les opéras de Wagner pieds nus où on ressent la musique par les pieds. Ça, c'est mon rêve absolu. Donc, je vais le faire bientôt, j'espère, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Mais donc voilà, mon Wagner, c'est vraiment la musique qui vient de mon papa. Donc, c'est vraiment chaque homme m'a impulsé des sentiments différents face à des musiques différentes.
Un son.
Alors déjà, c'était pas facile comme question parce que évoquer un son, je me suis posé qu'est-ce que ça voulait dire. Est-ce que je parle du bébé qui pleure ou de la pluie ? Et vraiment, le son de cheminée, je pense que c'est vraiment un son qui me rassure. C'est peut-être par rapport à mon signe astrologique, je suis scorpion, donc peut-être que le feu, c'est quelque chose qui fait partie un peu de mon ancrage, si on parle un peu de spiritualité, voilà. Mais voilà, le feu, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours rassurée. Le feu de cheminée, parce que y a des feux qui sont beaucoup plus angoissants. Mais c'est vrai que c'est un son, le crépitement, la lumière, la chaleur, c'est des moments familiaux, c'est des moments de détente, de lecture. Donc voilà, ça m'évade. C'était un peu mon rêve d'avoir une cheminée dans mon bureau. Donc voilà, j'en ai même une dans mon bureau que j'utilise très rarement parce que j'ai peur de... Il y a des bibliothèques partout, donc ça me fait toujours un peu peur. Mais je l'ai installée exprès quand j'ai déménagé dans mon bureau, d'avoir une cheminée dans mon bureau à moi.
Un film.
Oh, kouan, poli, inouma.
똑같은데 왜 버려요?
같은 풀이라도 이건 사람을 죽이는 풀이고 사람을 살리는 풀이 있어. 응?
똑같은데 어떻게 알아요?
자세히 들여다보면은 이런 맨 끝에 하얀 줄이 있지.
그럼 c'est un film. Alors j'essaie de pas me tromper de traverser les saisons, voilà. C'est un film coréen de Kim Ki-duk qui s'appelle Printemps, été, automne, hiver et printemps. Bah, c'est vrai, quand on m'a posé la question, c'est le premier film auquel j'ai pensé. C'est vraiment un film qui m'a marqué parce que pour moi, c'est un des premiers films contemplatifs que j'ai vus. J'étais donc 20 ans, je devais avoir un petit... même pas 20 ans, on va pas dire mon âge, mais voilà. Donc c'est vraiment le premier film sur la contemplation, la beauté. Et ça m'a touché beaucoup, cette évolution des saisons. Et on partage vraiment des instants de vie avec ces personnages. À chaque saison, qui sont différents, des sentiments de joie, de peine, et qui évoluent dans le film. Et puis la lenteur... Qui est vraiment à l'opposé de ce que je suis au quotidien et finalement assez plaisante et j'ai vraiment un marqueur esthétique de ce film dans ma tête depuis 20 ans que j'ai pas revu, donc je me suis dit là que pour Noël il faudrait que je le revoie parce que pour qu'il me marque à ce point là c'est que c'est quand même un film important. Moi, je suis très influencée par la nature, les végétaux, les couleurs, donc oui, je pense que ça fait partie de mes inspirations inconscientes. Dans les lumières, c'est toujours des lumières qu'on recherche. Dans les projets, on recherche toujours une lumière, une ambiance et créer un sentiment. Et je pense que ce film, il crée le sentiment à chaque saison. Donc c'est ça qui est assez magique.
Un livre.
C'est un extrait de livre de Mort à Venise de Thomas Mann. D'être seul et de se taire. On voit les choses autrement qu'en société. En même temps, qu'elle garde plus de flou, elle frappe davantage l'esprit. Les pensées en deviennent plus graves, elles tendent à se déformer et toujours se teintent de mélancolie. Ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce dont en société vous vous seriez débarrassé, en échangeant un regard, un rire, un jugement, vous occupe plus qu'il ne convient. Et par le silence, s'approfondit, prend de la signification, devient événement, aventure, émotion. De la solitude naît l'originalité, la beauté, en ce qu'elle a d'osé et d'étrange, le poème. Et de la solitude aussi, les choses à rebours, désordonnées, absurdes et coupables. Alors, j'ai choisi cet extrait. Je ne suis pas quelqu'un justement de solitaire, mais cet extrait pour moi est tout à fait en corrélation avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit depuis 2 ans. Comment appréhender ce confinement et cette solitude où finalement on s'est retrouvé, même si on était en famille, même si on était entouré, on s'est retrouvé d'un coup hors de la société pendant un moment avec le premier confinement, on s'est retrouvé isolé. Et moi j'ai eu de la chance parce que j'avais une grosse famille autour de moi, mais il y a des gens qui ont été seuls. Et même si pendant ces moments-là on a travaillé de manière beaucoup plus solitaire, pas en équipe parce qu'on était tout le temps au téléphone, on s'est retrouvé très informatisé. Et je pense qu'avec ce texte, ça nous permet juste de dire la solitude, ce n'est pas forcément une tristesse. Ça peut être aussi une manière de se retrouver, de réfléchir et de retrouver le beau par la solitude. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et c'est comme ça que je le vois aujourd'hui dans le raisonnement, dans le monde dans lequel on vit, où ça a été difficile et ça l'est toujours. On n'est pas du tout sorti de cette histoire. Mais je pense que ces moments aussi, ça, parfois, moi, je l'ai vu aussi comme des moments justement de réflexion. On n'était pas dans l'urgence de la vie et c'était aussi bien. Il ne faut pas voir que le négatif tout le temps. J'essaie d'être toujours positif. Moi, je suis pas quelqu'un de mondaine, donc je suis vraiment très famille et je pars à la campagne tous les week-ends. Et le week-end, je vais dans mon atelier, je fais mes choses à moi et c'est quelque chose que je ne faisais plus avant. Donc peut-être que ça m'a remis dans cette chose-là où même je m'occupe du jardin et ça, je le fais seul. Donc c'est des choses aussi qui permettent de se recentrer et ça fait du bien parce qu'on est un peu surexposé, surdemandé et ça fait du bien d'être un peu dans une réflexion seule.
Un événement historique.
Je vous ai compris! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
Ça, c'est mon histoire familiale. Mon père était pied noir, né à Alger. Il est venu en France à l'indépendance de l'Algérie en 1963. Et mon grand-père, en fait, était à côté du général de Gaulle pendant le discours. Donc, on le voit sur toutes les photos officielles. Mon grand-père a une carrière militaire. Et donc, c'est vrai que dans ma famille, c'est un discours dont on parle tout le temps. C'est toujours... Donc, c'est un discours d'enfance où on a toujours parlé de ce discours. Moi, évidemment, j'ai toute mon histoire d'Algérie, où j'ai mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mon papa. Donc, c'est vraiment... C'est la moitié de ma famille qui vient de là-bas, donc c'est quelque chose d'important dans ma famille, dans ma culture. Et ça se voit d'ailleurs dans mes décors, parce que je suis beaucoup inspirée par les motifs orientaux, les couleurs, ça fait vraiment partie aussi de mes décors. Donc finalement, ça m'a... Et moi, j'avais des salons de mes grands-parents, c'était des salons bas, tout en tissu, avec des tapis et des tables basses martelées, quoi. J'ai été élevée là-dedans, alors que pas du tout, c'était pas ma culture, mais c'est juste mes origines pieds noirs. Donc ce discours, pour moi, c'est vraiment mon discours familial, où on en parlait tous les dimanches dans ma famille. Donc c'est plus que pour le discours, c'est juste que c'est vraiment, ça fait partie de notre histoire. Enfin, moi, dans ma famille, ils étaient très pour la libération de l'Algérie, donc ça n'a pas été, j'ai pas du tout ce problème identitaire. Ils étaient pour, ils étaient contre la colonie, donc j'ai pas du tout ce... Voilà, moi, c'était plus, ton grand-père est à côté de lui, c'est incroyable, donc ça fait partie, on a les photos, on a les trucs, ça fait partie un peu de mon histoire familiale.
Un artiste.
We pay with our own money this project.
Yes. We do not accept sponsors because we wish to work in total freedom. Our work is a scream of freedom. And the money we spend on all of our projects comes from what we can sell.
Donc c'est un extrait d'un discours de Christo et Jeanne-Claude. Alors nous, en tant qu'architecte d'intérieur, on n'est pas du tout libre. Hein. on est hyper contraint et c'est aussi bien. C'est une autre façon de travailler. Nous, on travaille dans la contrainte à la fois de budget, de timing et de technique. Donc on est dans une autre forme d'art et c'est ça qui me fascine, c'est que eux, ils se sont affranchis de tout. Bah, par exemple, le dernier exemple avec l'Arc de Triomphe était le vrai exemple de ça, c'est qu'ils ont fait quelque chose de monumental en s'affranchissant de tout, en le gardant quelques jours et en se disant voilà, l'art il est pour tous, il est libre, il appartient à personne et je trouve que il n'y a rien de mieux dans la vie que la liberté. Donc bravo, et ça me fascine en fait. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis artiste parce que je me sens pas encore et je suis en doute. Donc je pense que c'est trop tôt. Mais c'est à terme, j'aimerais bien vraiment... Je peins beaucoup, donc à terme, j'aimerais bien m'y remettre vraiment comme je le faisais avant. Maintenant, je fais ça pour l'instant de manière très sporadique et récréative.
Un artiste.
La vague de Camille Claudel. Évidemment, choisir une œuvre d'art, c'est impossible. Donc, j'ai juste choisi celle-ci. C'est pas ma préférée. C'est juste qu'elle fait partie d'une histoire. Et comme on est dans un podcast un peu personnel, je trouvais ça intéressant de raconter mon histoire avec cette œuvre. Moi, j'ai fait mes études à Paris-Malaquais, aux Beaux-Arts, à Saint-Germain. J'ai vécu 10 ans à Saint-Germain et je passais ma vie au Musée Rodin. J'ai passé parfois juste pour aller voir cette œuvre, par exemple. J'y allais, et donc j'allais avec mon papa, toujours le mercredi, le samedi, aller se balader dans le musée, souvent pour aller voir cette œuvre, parce qu'on avait un peu une fascination tous les deux. Pour la maîtrise parfaite de la technique de cette œuvre et de l'histoire de cette femme. Et bon, évidemment, je ne vais pas faire un discours féministe aujourd'hui, ce n'est pas le propos du podcast, mais cette femme qui a toujours été dans l'ombre a fait cette œuvre d'une... Elle est incroyable de justesse, de beauté. Elle est minuscule, hein. C'est une toute petite œuvre qui fait 50 cm, avec une vague sculptée, avec un toucher incroyable. Et ces femmes, on ne sait pas trop à l'intérieur qui surfent, on ne sait pas trop si elles sont en danger, on ne sait pas trop si elles sont libres. Et c'est un peu ce qui symbolise sa carrière à elle. Et à l'époque, quand j'étais étudiante, bah, c'est un peu ce que je me demandais, ce que j'allais devenir, quelle serait ma carrière. Et aujourd'hui, bon, je peux en parler avec plus de recul, puisque 10 ans plus tard, je sais où je vais, un peu plus que quand j'avais 20 ans. Toute ma carrière, jusqu'à aujourd'hui, je me mets en danger. Parfois, je suis confortée, parfois, je suis libre. Parfois, je me sens contrainte. Donc, cette sculpture symbolise pour moi une femme.
Un bâtiment.
Alors, le bâtiment, j'ai choisi la cathédrale Saint-Basile à Moscou. C'est un lieu qui est mystique, qui est ornementé d'une manière incroyable. Bon, déjà, extérieurement, il y a ces kokochnikas, ces couleurs qui sont typiques de l'architecture russe. Mais intérieurement, je ne sais pas comment dire, mais moi, quand j'y suis allée deux fois. Il y a une espèce de mystique dans la lumière qui traverse. J'ai entendu à un moment donné, on traversait les pièces, il y avait des chants grégoriens, on ne savait pas d'où ils venaient. Il y a un côté qui est complètement mystérieux parce que c'est un espèce de labyrinthe. Je ne sais pas si vous l'avez visité, c'est un espèce de labyrinthe. Chaque pièce a des fresques incroyables, il y a les reliques. Et c'est vrai que dans les motifs, on peut dire que c'est un des lieux où il y a des motifs les plus incroyables, les plus colorés, qui sont restés complètement intacts parce que la lumière du jour n'impacte pas du tout les peintures. Et c'est vrai que c'est magique, quoi. On a l'impression d'être hors, on sait pas où on est hors du temps, on a cette lumière qui vient, on a l'impression que c'est Dieu qui arrive à l'intérieur de la cathédrale. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui m'a beaucoup marqué, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui m'inspire beaucoup. Je regarde tout le temps les photos, je reprends des motifs, je les réutilise dans mes fresques, et c'est vrai que c'est un lieu qui m'a marqué.
Un décorateur.
Le bar du Carlyle à New York, avec ses fresques, le piano qui est au centre, qui est tout petit, et ce mini-bar qui fait des cocktails toutes les deux minutes. C'est vrai qu'il y a une atmosphère où on a l'impression, on se sent new-yorkais. C'est l'atmosphère qui vous propulse dans la ville et qui fait qu'on ne sait plus qui on est. Et on passe à un moment un peu hors du temps parce que c'est un lieu qui date... Alors, je n'ai pas la date, je pense que c'est 1930 à mon avis. Et on a l'impression qu'on est propulsé en 1930 et à New York en même temps. On a une atmosphère qui est dingue et je trouve que pour moi, c'est la quintessence de la décoration. Alors, ce qui est très fameux dans ce bar, c'est les fresques. Donc, c'est une fresque qui est tout autour du bar, qui est à mi-hauteur, avec les banquettes qui sont en dessous. Et ce sont plein de petites souris, des petits personnages qui marchent dans New York avec des symboles new-yorkais, dans une espèce de ton un peu tabac vieilli, qui pour moi symbolise vraiment le bar ancien. Et il y a des lumières, c'est les lumières qui sont très basses. Et c'est vrai que le piano qui est au centre, avec une moquette, un motif très 30. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère, c'est Woody Allen qui est tout le temps là-bas, qui joue d'ailleurs souvent là-bas. Et il est dans beaucoup de films, hein, ce bar. C'est vraiment une référence, c'est vraiment un décor de cinéma vivant.
Un endroit.
J'ai eu du mal à choisir les deux lieux dans lesquels je me sens le mieux. Évidemment, la campagne, ma maison de campagne, c'est vraiment un lieu où je me... où je m'évade. C'est-à-dire, dès que je prends la route, je pars de Paris, c'est fini, j'ai tout oublié, je suis partie là-bas. Et ça, c'est vraiment un moment pour moi. Même les gens qui me voyagent avec moi me disent, c'est incroyable, tu changes de visage quand t'arrives, quand t'es sur la route pour aller là-bas. C'est vraiment mon lieu de, c'est mon lieu à moi, quoi. C'est vraiment un lieu qu'on a construit avec mon mari, où il y a toutes nos créations à l'intérieur, où on a vraiment, c'est vraiment un lieu qui symbolise ma décoration, un peu. Mon art décoratif. Donc, c'est vraiment un lieu à part pour moi. J'ai pensé à ça au début. Et puis, il y a un autre lieu à chaque fois que je vais là-bas, parce que j'y suis beaucoup allée. C'est là-dessus que j'ai fait mon diplôme d'architecture, c'est Venise. Je dis toujours à mon mari, moi, j'aimerais mourir là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à Thomas Mann. Mais c'est vraiment l'endroit où je me dis, j'aimerais passer la fin de mes jours. C'est un endroit pour moi magique, où on a l'impression qu'il s'est passé plein de choses, où la lumière, elle est incroyable, où l'art de vivre est incroyable. C'est vraiment un endroit suspendu et c'est un endroit où je me sens bien. Il y a plein d'endroits. Déjà, il y a les marchés qui sont incroyables. Moi, j'adore aller au marché à Venise, aller voir les poissons, les fruits de mer. C'est ma passion. Donc, déjà, toujours, je vais aller voir les marchés. Ensuite, il y a Giardini, qui est un endroit que j'adore, où en fait, c'était l'exposition qui s'est transformée tous les ans en biennale. Donc, c'est une fois l'architecture, une fois l'art. Et c'est vraiment, je peux passer à chaque fois que je vais 2 ou 3 jours là-bas à aller voir tous les pavillons. Déjà, c'est une beauté architecturale, mais après, c'est toujours très intéressant de voir un peu cette époque du temps en photo, où ça symbolise pour moi ces expositions, ces biennales, ça symbolise vraiment, quand c'est l'art, ce que pense le monde. Et quand c'est l'architecture, nos manières de construire à ce moment-là. Donc, je trouve que c'est assez important. C'est une photographie de notre époque à chaque fois. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est assez dingue de se retrouver, parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui ne connaissent pas Giardini, qui vont à Venise parce qu'ils y vont qu'une fois. Donc, ils doivent visiter. Il y a beaucoup trop de choses à voir. Il y a tous les musées, la place Saint-Marc, les choses. Donc, les gens sont un peu obsédés avec leur parcours. Et c'est vrai que finalement, on marche le long de la lagune, on se retrouve à Giardini. Et c'est vraiment, on n'a plus l'impression d'être à Venise, on ne sait plus où on est. Et je trouve que c'est un lieu un peu magique.
Décoscopie. Retrouvez tous les épisodes du podcast Décoscopie en ligne sur toutes les plateformes.